C'est de la lecture de l'Évangile que sera tirée notre réflexion, notre méditation d'aujourd'hui, et le thème pourrait en être la famille de Jésus. Donc la lecture sera faite dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 20 à 22 et 31 à 35. Jésus revint à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors, Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela et se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disaient, « Jésus est devenu fou !» Les maîtres de la loi qui sont venus de Jérusalem disent, Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais, et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, ils veulent te voir. » Jésus répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit, « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Les vacances sont souvent une période pendant laquelle nous pouvons nous consacrer un peu plus à la famille, partir vers des destinations plus ou moins lointaines ou simplement rester à la maison et faire des activités ou des visites avec notre enfant, avec nos enfants ou notre conjoint. Cela nous permet ainsi de retrouver en famille, de nous retrouver en famille dans un contexte plus relax et selon un rythme moins trépidant. Bref, c'est une période importante, nécessaire et souvent fort attendue par tout un chacun. Et c'est aussi précisément de famille dont nous parle l'Évangile de ce dimanche et plus particulièrement de la famille de Jésus. L'Évangile nous dit ici que Jésus a prêché une fois de plus l'Évangile toute la journée. Pas l'Évangile que nous avons lu ce matin, car il n'est pas encore écrit, il est en train de se réaliser, mais la bonne nouvelle du salut. Et donc l'Évangile nous dit que beaucoup de personnes se sont assemblées pour l'entendre, de nombreux malades aussi, avec la requête que l'on imagine. Et il les a guéris. Le soir, il rentre, on pourrait dire enfin, avec ses disciples. Mais là encore, beaucoup de gens le suivent et se rassemblent autour de lui pour l'entendre. Et ça continue. Et il est écrit qu'il ne pouvait même pas manger. Alors, quelque chose d'étrange se produit. Marie, sa mère, ses frères et ses sœurs souhaitent le voir et le font appeler, car l'Écriture nous dit qu'ils se font du souci à son sujet. Et l'Écriture nous dit aussi qu'ils viennent pour s'emparer de lui, car ils disaient il a perdu la raison ou il est devenu fou. On dirait aujourd'hui il est devenu maboule. Pourtant, Marie savait bien que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie promis. Elle le savait, elle l'a reconnu, elle l'a dit. Mais sans doute s'imaginait-elle aussi une carrière un peu différente. Rendez-vous compte, cette façon dont il avait de s'en prendre aux autorités religieuses, aux chefs du peuple, tout cela n'apportait rien de bon pour la réputation de la famille. Et on connaît l'importance de la famille dans, dans ces pays et dans cette tradition. Pourtant, Jésus enfant, son comportement était exemplaire, sinon, si l'on oublie sa fugue quand il avait 12 ans. Mais rendez-vous compte, depuis son baptême au Jourdain, son fils aîné se comporte de façon vraiment étrange. Il se promène partout dans le pays en tenant des prédications enflammées, comme s'il voulait fonder une nouvelle religion. Il a prêché toute la journée, nous dit-on. Et maintenant qu'il est à la maison avec sa petite troupe, il ne prend même pas le temps de souffler un peu et de manger. Cela montre bien qu'il exagère. Un exalté n'agirait pas autrement. Au prêtre, il fait le reproche d'être des hypocrites en cherchant leur propre justice. Et on dit en plus qu'il ne respecte pas le sabbat, qu'il agit consciemment de façon provocante. Et c'est précisément un jour de sabbat qu'il guérit les malades. Et en plus, il leur dit de retourner chez eux en portant leur lit. Mais que veut-il au juste? Par contre, beaucoup, c'est vrai, parlent de lui avec enthousiasme. Mais pour les experts, les spécialistes de la loi, c'est un blasphémateur. Quelqu'un qui méprise le temple et qui s'élève au-dessus de Moïse. Il chasse les démons, d'accord. Mais les théologiens prétendent que Jésus fait cela par la puissance de Satan, qu'il est lui-même un possédé. Et pour compléter ce tableau vraiment étonnant, ou détonnant pourrait-on dire, il fréquente des marginaux, des gens peu recommandables. Il mange avec des collabos, vous savez, ces collecteurs d'impôts. Il y a là quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, au vu de tout ça, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer ainsi. Qu'il sorte de la maison, la famille passe avant, en tout cas donc dans le peuple d'Israël. Et donc, la famille est là à la porte. Et donc, ils ne veulent ou ne peuvent rentrer. Et donc, ils font passer un message dans la foule pour demander à Jésus de sortir et de venir à eux. Et donc, la nouvelle circule de bouche à oreille jusqu'à Jésus. La famille de Jésus est là, elle demande à le voir. Et arrive la nouvelle près de Jésus. Et dans la foule, on lui dit, « Ta mère, tes frères et sœurs sont dehors. » Et ils te demandent. Et là, un silence tendu. Que va faire Jésus? N'est-il pas toujours disponible pour ceux qui le demandent? Combien de fois s'est-il laissé arrêter dans la rue quand un aveugle, un sourd muet, ou un paralytique ou un boiteux lui demandait de l'aide? Quiconque s'est adressé à lui avec foi n'est jamais reparti déçu. Mais là, l'Écriture nous dit que Jésus promène son regard sur les gens autour de lui et tout d'un coup il déclare « Voici ma mère, voici mes frères ». C'est en quelque sorte une fin de non-recevoir. Il se comporte comme s'il n'avait plus de famille, en tout cas comme s'il ne connaît plus celle qui est à la porte. Apparemment, le lien du sang n'existe plus pour lui. D'autres ont fait aussi cette expérience. Rappelez-vous la femme cananéenne qui l'avait supplié de guérir sa fille. Il avait répondu, « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, je ne suis pas là pour toi. Et à ses propres parents, quand il avait 12 ans dans le temple, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et quelques années plus tard, à Cana en Galilée, il répondra à sa mère, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Ce garçon avait donc des prédispositions pour bousculer son monde. Et je vous propose maintenant, frères et sœurs, de faire une petite pause dans ce récit. Peut-être l'expérience nous est-elle familière. On frappe chez Jésus parce qu'on a de sérieux problèmes. on porte une lourde charge et de l'aide nécessaire. On s'adresse donc à Jésus dans la prière. N'a-t-il pas dit lui-même « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et tout ce que vous demandez au Père en mon nom, cela vous sera donné. Mais malgré ça, rien ne bouge. On a le sentiment qu'il n'a pas entendu ou qu'il ne veut peut-être même pas entendre. C'est comme s'il ne nous connaissait pas ou que notre demande était trop petite pour qu'il intervienne. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Ça fait tellement mal. Je ne supporte plus cette situation. Tu peux m'aider si tu le veux. Est-ce que je me trompe ? Jésus écoute les prières. Cela fait partie de l'ABC du christianisme. Mais l'expérience nous enseigne que toutes les prières ne sont pas exaucées. En tout cas, pas nécessairement comme nous le souhaitons ou comme et quand nous l'estimons nécessaire. Jésus prêche, mais quand sa mère, ses frères et ses sœurs cherchent à lui parler, il dit « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Et c'est ce qui se passe encore de nos jours. Alors, c'est quoi le problème ? Pouvons-nous l'apprendre de ce texte ? Pour cela, examinons de plus près la réponse de Jésus. Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères et sœurs ? Puis il promène son regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et leur dit « Voici ma mère et voici mes frères. » Et à présent vient l'explication. « En effet, dit Jésus, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère, donc sa parenté. » Ceux qui lui appartiennent, ce sont les disciples qui, dans cette maison à Capernaum, et partout sur toute la terre, sont assis autour de lui et mettent en pratique ses paroles. Ce sont les Marie-Madeleine dont il peut dire « Elles ont choisi la bonne part et elle ne leur sera pas enlevée ». Il s'agit donc de convertis qui vivent sa parole et le suivent. Des disciples qui ne se tiennent pas à l'écart, ou même qui s'irritent contre lui. Voilà sa vraie famille. C'est pour eux qu'il est là. Ceux-là, il ne les refoulera jamais. Il l'a dit lui-même, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. La leçon est claire. On est avec où on est contre Jésus. Mais attention aussi à ne pas le juger ou à venir chez lui quand il n'y a plus d'autre solution. Aujourd'hui encore, Jésus nous appelle à le suivre. C'est aujourd'hui qu'il veut être notre médecin et pas seulement quand une chose grave nous arrive. C'est aujourd'hui qu'il peut être ton médecin parce que c'est aujourd'hui que tu as besoin de lui. Et cela, même si ton état de santé est au beau fixe, c'est chez lui que se trouve le pardon des péchés dont nous avons tant besoin, la grâce sans laquelle nous ne pouvons pas subsister devant Dieu. La vie éternelle que lui seul peut nous offrir. Nos prières ne seront pas toujours exaucées de la manière dont nous le souhaitons, mais il sera toujours là pour ceux qui sont en communion avec lui et vivent des promesses de son évangile. Quiconque s'approche de lui d'un cœur humble et croyant, s'assoit à ses pieds pour écouter sa parole et faire la volonté de Dieu, celui-là est, comme il le dit lui-même, mon frère, ma sœur ou ma mère. Et quelle est cette volonté de Dieu ? Elle est écrite à un autre endroit dans les Écritures, là où le Seigneur dit « La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Celui qui reconnaît cela n'a pas besoin de rester dehors. Il y avait au Moyen Âge un mystique nommé Maître Eckhart, qui a dit un jour dans un sermon, certaines gens, dont je le cite, certaines gens veulent voir Dieu de leurs yeux comme ils voient une vache. Donc, ils veulent aussi aimer Dieu comme ils aiment une vache. Tu l'aimes pour le lait et pour le fromage et pour ton propre avantage. Ainsi font tous les gens qui aiment Dieu pour richesse extérieure et pour consolation intérieure. Et ceux-là n'aiment pas Dieu comme il faut, mais ils aiment leur propre avantage. Fin de citation. Frères et sœurs, notre texte ne veut assurément pas nous décourager. Au contraire, l'évangile de ce matin est là pour nous donner de l'assurance et pour fortifier notre foi. Jésus ne se laisse pas non plus manipuler par les gens. Il n'accepte pas les rapports de force. Sa mère et ses frères ont cherché à l'influencer. Ils ont cherché, comme ils le croyaient, à le ramener à la raison. Il a perdu la raison, disait-il. Il va trop loin. Il exagère avec sa vie pieuse et ses exigences. Ce rapport de force est toujours d'actualité. Comme d'aucuns déclarent, par exemple, que la Bible va trop loin au sujet de Jésus. Les gens disent de lui un homme bon, généreux, compatissant, qui aide là où il le peut. Pas encore. Un exemple lumineux qui nous exerce à l'imiter, à la bonne heure. Mais Dieu est devenu homme pour nous sauver, parce que ce n'est pas possible autrement, que sans lui, nous resterions au pouvoir du péché et serions condamnés. Non, 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 ça c'est de trop. C'est de l'exagération, des histoires pour infantiliser l'être humain, pour l'abrutir et l'empêcher de se réaliser lui-même. Avec de telles opinions, les personnes qui croient cela se condamnent à rester dehors. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et faire la volonté de Dieu, cela commence par reconnaître sa propre pauvreté spirituelle. Et cela aussi de reconnaître Jésus comme l'agneau dont le sang nous purifie de tout péché. Et la vie chrétienne, ma foi, celle qui veut obéir au commandement de Dieu, elle vient ensuite, comme un beau fruit de la conversion. Et ça, c'est l'action de l'Esprit dans nos cœurs. Donc, quiconque veut aller chez Dieu ne peut y arriver sans Jésus. Le chemin passe par lui. Christ est le chemin qui mène à Dieu. Celui qui ne le reconnaît pas en tant que tel frappe très vraisemblablement en vain à la maison du Père. Jésus est assurément un magnifique exemple, mais il est bien plus que cela. Jésus peut assurément aider des malades, mais il est plus qu'un super médecin ou un travailleur social très compétent. Jésus a du temps pour tous. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il avait du temps pour Bartimée et pour d'autres aveugles, pour le paralytique de Bethesda, pour les 10 lépreux, du temps pour Zachée, pour le Samaritain ou pour Nicodème. Du temps quand des gens ont ouvert le toit de la maison sans demander aucune permission préalable pour y faire passer leurs compagnons. Donc, ils ont interrompu l'enseignement de Jésus, tout comme Marie et ses frères. La situation est très similaire de ce point de vue. C'est même dans l'histoire de cette guérison que se trouve la clé pour comprendre l'attitude des seigneurs. Il y est dit, Jésus vit leur foi. C'est ça qui était la différence. Et c'est de cela qu'il choisit. Comment accédons-nous à Jésus? Qu'attendons-nous de lui? Pour qui le prenons-nous? Qu'avons-nous dans le cœur quand nous frappons à sa porte ? Voici mes frères, voici ma mère, dit-il en regardant cette foule qui recherche sa parole. Sa mère était quelque peu déconcertée, et ses frères ne croyaient pas en lui, nous a-t-il dit d'ailleurs. Et c'est pourquoi on ne voit guère ses frères dans les évangiles, pas même sous la croix. Plus tard, leurs yeux s'ouvriront et ils se convertiront. D'ailleurs, écoutez cette parole, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Et savez-vous qui a écrit cette parole ? C'est Jacques, le propre frère du Seigneur, une fois devenu chrétien convaincu et l'un des responsables de l'Église de Jérusalem. Une telle foi, frères et sœurs, grandit en nous quand on écoute Jésus, quand sa parole fait de nous ses frères et ses sœurs bien-aimés, quand il nous voit assis là pour glorifier son nom. Que Dieu nous offre une relation authentique et véritablement fraternelle avec son Fils, car c'est de cette relation que dépend notre bonheur dans le temps et dans l'éternité. Amen. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.